Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, les images satellites qui accusent l'armée de Vladimir Poutine. Les cadavres découverts à Boutcha en Ukraine gisaient déjà dans les rues il y a 3 semaines lorsque l'armée russe occupait la ville. Va-t-on découvrir d'autres horreurs au fil du retrait des soldats? Nos envoyés spéciaux sont à Borodyanka. Quel serait le coût pour l'Europe d'un embargo sur les hydrocarbures russes? Coût important, mais qui peut être encaissé, selon une note du Conseil d'analyse économique. Marine Le Pen, le vent en poupe à 5 jours du premier tour de la présidentielle. Intention de vote pour elle, toujours en hausse. Elle était l'invitée de France Inter ce matin.
C'est le moment où nous allons gagner cette élection présidentielle et où donc nous allons assumer les responsabilités qui vont avec.
Emmanuel Macron absent d'une des dernières grandes émissions de la campagne ce soir sur France 2. Il refuse le débat, estime Valérie Pécresse. Ce mardi, jour clé pour Jean-Luc Mélenchon. Présent dans 12 villes à Lille et en hologramme ailleurs. Dans l'actualité encore, le rapport de l'IGAS le confirme, Orpea donne la priorité au rendement. La qualité de l'air s'améliore à Paris. Et vos rendez-vous à partir de 13h30, toutes vos questions sur la grippe aviaire, particulièrement aiguë cette année. Plus de 10 millions de volailles ont été abattues depuis novembre. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Le feuilleton dans une entreprise de transport, à l'heure où le carburant est autour de 2 euros, comment optimiser les tournées? Et puis dans C'est une chanson, le chanteur Jean-Guy Denis nous fait écouter Alain Leprest. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Combien de scènes d'horreur va-t-on découvrir avec le retrait des troupes russes de la région de Kiev? Ces villes libérées s'ouvrent peu à peu au reste du monde et l'on redoute de découvrir d'autres Boutcha, cette cité de 40 000 habitants où gisaient des dizaines de cadavres. Nos envoyés spéciaux dans la région, Thibault Lefebvre et Benjamin Thuot, nous racontaient Boutcha hier au début de ce journal. Thibault, ce matin, vous êtes sur la route de Borodyanka, un peu plus au nord-ouest, et ce sont des paysages et des villes dévastées que vous traversez.
Oui, nous sommes un peu plus profondément dans ces territoires laissés à l'abandon par les Russes. Et ce que l'on peut décrire, Bruno, eh bien, ce sont des villages complètement détruits, comme Bouzova, par exemple, avec ses immeubles ravagés par les tirs d'obus, des quartiers rasés, des traces de balles ou d'éclats sur tous les murs. Le drame de ce village, c'est qu'il était à proximité d'un aéroport qui a été le théâtre de violents combats. Un peu plus au nord encore, Kolonchina, un autre village, un silence de mort. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de famille, seulement des personnes âgées. Elles ont fait le choix de rester, elles sont sonnées, sidérées, traumatisées par les violences qu'elles ont subies.
Et dans ce village, vous avez rencontré Loubov. Vous nous racontez son histoire, Thibault.
Oui, Loubov. Le 17 mars, Loubov est réfugié avec son mari dans sa cave. Deux jeunes soldats russes patrouillent dans le village. Ils fouillent les habitations. Ils sont visiblement éméchés. Un de ces militaires, très jeune, entre dans la maison. Le couple de retraités est caché. Il crie, il demande s'il y a quelqu'un, puis il jette une grenade dégoupillée qui explose dans l'abri. Le mari de Loubov a subi depuis cette opération. Il est hospitalisé à Kiev. Il a protégé son épouse en se jetant sur elle. Loubov a le bas des jambes criblé d'éclats, une blessure à la main, et elle ne réalise pas. Elle ne réalise pas comment, en seulement un mois et demi, la guerre et toutes ces atrocités sont arrivées jusqu'à chez elle, ont complètement détruit sa famille, son mari gravement blessé, ses enfants déplacés à l'ouest, et elle, désormais seule, avec son chien, hébergée chez une amie, le temps de se soigner.
Thibault Lefebvre et Benjamin Thuot en direct d'Ukraine sur la route de Borodyanka pour France Inter. La Russie rejette depuis hier les accusations d'exaction et elle réfute par avance la véracité de nouvelles images que le monde pourrait découvrir. Moscou accuse l'Ukraine de préparer des mises en scène de civils tués. Sauf que, à propos de Boutcha, le New York Times publie un document très embarrassant pour le Kremlin. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour Bruno.
Des images satellites qui montrent qu'à Boutcha, les corps découverts depuis ce week-end gisaient déjà dans les rues il y a 3 semaines lorsque l'armée russe occupait la ville.
Oui, une artère, Bruno, symbolise le massacre de Boutcha, la rue Yablonska. C'est là que de nombreux médias ont pu filmer ce week-end au moins une douzaine de cadavres allongés sur le trottoir, parfois sur la chaussée. Le New York Times a analysé une vidéo authentifiée du 1er avril, celle d'un élu local qui filme la rue alors qu'il circule en voiture. Le journal a comparé cela aux images satellites de la société américaine Maxar Technologies, datant de plusieurs semaines, entre le 9 et le 21 mars. Il y a des repères évidents sur ces images. On y voit les mêmes véhicules abandonnés en travers de la route ou au bord de la chaussée, et des formes sombres qui correspondent exactement aux cadavres tels qu'ils ont été filmés, des corps dans les mêmes positions aux mêmes endroits. D'après ces analyses, au moins 11 cadavres étaient déjà dans cette rue depuis le 11 mars, donc à une période où les Russes occupaient la ville. Eux-mêmes le confirment. Ils prétendent pourtant que tout a été mis en scène après leur départ. Impossible en revanche de connaître l'origine de la mort de ces civils. On peut supposer que certains ont été victimes de tirs d'artillerie, des corps gisent à côté de cratères d'obus. D'autres corps présentent des blessures par balles, notamment à la tête.
Les images de Boutcha pointent vers des civils ciblés délibérément, estime une des porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. En France, le parquet national antiterroriste ouvre 3 enquêtes contre X pour de possibles crimes de guerre commis sur des ressortissants français en Ukraine, à Mariupol, Gostomel et Tchernif. Une première enquête avait déjà été ouverte le 16 mars dernier pour crimes de guerre après la mort d'un journaliste franco-irlandais en Ukraine. À New York, le président ukrainien interviendra tout à l'heure en visioconférence devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce matin, à la télévision ukrainienne, Volodymyr Zelensky a fait de la tenue de pourparlers avec la Russie la seule option, même si elle représente un défi. Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU, ce sera l'une des images fortes de la semaine au plan diplomatique. Autre image forte attendue, 2 des plus hauts responsables européens annoncent qu'ils iront cette semaine à Kiev. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chef de la diplomatie, Josep Borrell. Hier, l'Europe annonçait discuter en urgence de nouvelles sanctions contre la Russie, contre une série de secteurs et personnalités. C'est sur la table d'une réunion des ministres des Finances aujourd'hui. Mais la sanction ultime, ce serait de ne plus acheter d'énergie russe chaque jour ou presque. Union européenne, États-Unis et Royaume-Uni font un chèque total de 700 millions d'euros à la Russie pour son énergie, son nickel et son titane. Alors quel serait le coût pour les économies européennes d'un embargo sur les hydrocarbures russes? En France, le Conseil d'analyse économique publie une note à ce sujet. Bonjour Philippe Martin.
Bonjour.
Vous êtes le président délégué du Conseil d'analyse économique et la note est plutôt rassurante. Vous évaluez ce coût à 100 euros par adulte européen en moyenne. Au fond, que veulent dire ces 100 euros?
Ben, ça signifie que ce qu'on a essayé de faire, c'est de mesurer les effets, en effet, d'un embargo sur toute l'énergie russe importée par l'Union européenne, en prenant bien en compte les effets de cascade hein, tout au long de la chaîne de production. Parce que si on baisse les importations de gaz, ça signifie moins de production d'engrais pour les industries chimiques, moins de production agricole, etc., etc. Et donc, ce qu'on obtient, c'est en effet quelque chose qui, pour la France, est autour de 100 euros par Français, en gros 0,2-0,3 points de pourcentage de PIB. Mais pour d'autres pays, hein, pour l'Allemagne, mais aussi évidemment pour les Pays-Baltes, pour la Bulgarie, ça peut être beaucoup plus, parce qu'ils sont beaucoup plus dépendants des importations de gaz russe.
Alors France, vous le disiez, baisse du revenu comprise entre 0,2-0,3% du PIB. Juste pour réaliser, dites-moi si je dis une ânerie, ça représente 4 à 8 milliards d'euros. C'est tout de même un coût important.
Oui, c'est pas zéro, hein, ça n'est pas négligeable, mais on considère que c'est gérable au sens où ça peut être absorbé, en particulier pour les ménages les plus modestes, évidemment par des transferts. Ça peut être absorbé dans certaines industries, dans certaines entreprises par le chômage partiel, hein, comme on l'a fait pendant la crise du Covid. Donc on considère que pour un pays comme la France et encore plus évidemment comme un pays comme l'Allemagne, ce sont des choses qui sont c'est un choc qui peut être absorbé par la politique fiscale.
Est-ce que ça signifie qu'on peut remplacer les hydrocarbures russes tout de suite ?
Non, pour certains, non. En particulier pour le gaz, c'est beaucoup plus compliqué oui. pour le pétrole sur lequel il y a un marché mondial. Donc c'est vrai que pour certaines entreprises, ce sera extrêmement difficile de faire une substitution rapide. Mais ce qu'on voit, c'est que cette substitution peut se faire à un horizon de, disons, 2, 3, 4 mois. Évidemment, ce sera très hétérogène hein, en fonction des industries et en fonction des secteurs. Mais il y a de la possibilité de substitution entre différents types d'énergie, même limitée.
Merci Philippe Martin, président du Conseil d'analyse économique, sur cette note donc à propos d'un éventuel embargo européen sur les hydrocarbures russes. En tout cas en Allemagne, le débat est entrouvert. Dimanche, la ministre de la Défense appelait à discuter de cette question, se passer outre-Rhin du gaz russe. Son collègue des Finances l'estime impossible pour le moment. L'Allemagne, on l'a dit, dépend à 40% du gaz russe. Et dans le contexte actuel, c'est la politique de l'icône Angela Merkel au pouvoir pendant plus de 16 ans, rapprochée économique avec Moscou qui montre ses limites. Ludovic Piétenu, vous êtes en direct pour France Inter à Berlin.
L'Allemagne s'est longtemps accrochée à cet espoir, en effet, que la Russie changerait grâce au commerce, même après 2014 et l'annexion de la Crimée, avec ce feu vert donné quelques mois plus tard au chantier d'un deuxième gazoduc Nord Stream en mer Baltique. C'était clairement une erreur, admet hier soir le ministre des Affaires étrangères de l'époque, le social-démocrate Frank-Walter Steinmeier, aujourd'hui président de la République fédérale. Il a travaillé 7 années sur 16 dans le gouvernement de coalition d'Angela Merkel. À l'inverse, la chancelière retraitée ne reconnaît pas d'erreur sur sa position de 2008, son refus d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN. En cela, elle répond très précisément, mais très froidement aussi, aux critiques du président ukrainien Zelensky dans un communiqué envoyé par sa porte-parole dans la soirée hier, dans le jargon d'une compagnie d'assurance qui vous refuserait une indemnisation, ironise ce matin un journaliste du quotidien allemand Handelsblatt. L'un de ses confrères nuance, oui, Merkel s'est trompée, mais toute l'Allemagne s'est aussi trompée. L'ex-chancelière n'a fait, comme à son habitude, que la synthèse, la somme des intérêts des partis politiques, le sien, le SPD, ou même les Verts, qui, parce qu'ils opéraient la sortie du nucléaire, ont tous soutenu ces accords gaziers avec Moscou.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin pour France Inter. En Allemagne, la justice a annoncé ce matin le démantèlement de ce qu'elle présente comme la plus grande plateforme de vente en langue russe sur le Darknet mondial, cette partie de l'Internet où se mènent des activités illégales. 17 millions de clients, une série d'activités criminelles comme du blanchiment d'argent selon la police criminelle et le parquet allemand. Par ailleurs, l'Allemagne et la France ont annoncé hier l'expulsion de diplomates russes accusés d'espionnage. Le Danemark et l'Italie annoncent faire de même ce matin. Et puis alors que les découvertes en Ukraine reposent la question d'une action de la justice internationale contre la Russie à La Haye, aux Pays-Bas, le procès d'un ancien milicien du Darfour au Soudan, en Afrique de l'Ouest, a commencé aujourd'hui. Il est jugé pour des atrocités commises il y a 20 ans. Autre organisme a manifesté de l'inquiétude à propos de l'Ukraine, l'UNESCO, la branche de l'ONU pour la culture. Le patrimoine ukrainien subit l'impact du conflit, une première liste des sites culturels partiellement ou totalement détruite depuis un mois et demi vient d'être dressée. Des musées, des bibliothèques, des églises, il y en a une cinquantaine, Delphine Evenou.
Si les 6 sites culturels ukrainiens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme la cathédrale Sainte-Sophie à Kiev ou le centre historique de Lviv, sont pour l'instant épargnés, 53 autres sites ont été sérieusement endommagés, voire totalement rasés, selon les remontées de terrain et les images satellites. L'inquiétude est forte aussi, dans un contexte de chaos, de voir une partie du patrimoine, comme des reliques du 11e ou 12e siècle, tomber dans de mauvaises mains. Lazar Ilundu Asomo est le directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Nous avons même appelé à ce que les pays limitrophes contribuent également à prévenir la lutte contre le trafic illicite des objets ukrainiens, des collections qui sont dans les musées, qui ont peut-être disparu, qui n'ont pas pu être mises à l'abri. Si ces objets se retrouvent sur le marché, c'est une perte immense du patrimoine ukrainien.
L'UNESCO aide ainsi à l'identification de refuges de stockage et pour tenter de protéger le patrimoine restant, elle a développé un système de marquage.
Nous assistons les autorités ukrainiennes, les associations à les marquer avec l'emblème du bouclier bleu qui, lui, est un message très clair que ces sites ne doivent pas être ciblés intentionnellement ou victimes de dommages collatéraux. C'est une violation du droit international qui peuvent même constituer un crime de guerre.
Car l'Ukraine et la Russie sont signataires de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
Et parmi les conséquences de la guerre sur l'économie française, le prix de l'énergie, la semaine dernière, le prix du litre de carburant à la pompe a baissé, moins 22 centimes en moyenne pour le diesel, 1,89€ le litre, moins 17 pour le sans-plomb 95 à 1,83€. Les intentions de vote en faveur de Marine Le Pen vont-elles continuer de grimper? Vont-elles se traduire dans les urnes dimanche, voire par une victoire au second tour de la présidentielle? Le scénario est un peu plus plausible au fil des jours, même si évidemment il n'est pas écrit. En faisant du pouvoir d'achat son thème numéro un de campagne ces dernières semaines, la leader d'extrême droite a largement évité l'effet complaisance avec Poutine dans les sondages. Peut-elle encore être rattrapée par l'actualité internationale? Au-delà de Poutine, sa proximité avec un autre leader est embarrassante pour elle, Élodie Forêt. C'est le dirigeant hongrois Viktor Orban qui vient d'être réélu pour un quatrième mandat.
Oui, jusque-là, Marine Le Pen avait toujours vu les bénéfices d'une alliance avec Viktor Orban, étouffée pour renforcer leur lien, lui rendant visite cet automne, diffusant aussi lors de son meeting à Reims en février une vidéo de soutien du leader hongrois. Pour la candidate du RN, Orban a un intérêt, prouver que sur la scène européenne, elle n'est pas seule et qu'elle peut construire un supergroupe nationaliste et conservateur. Sauf que la guerre en Ukraine rebat les cartes. Alors que Viktor Orban tempérait ces dernières semaines son enthousiasme vis-à-vis de Vladimir Poutine, dimanche soir, il s'est clairement rangé dans son camp, qualifiant même le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'ennemi. Une position qui l'isole, rendant notamment impossible les discussions avec le PiS, le parti conservateur polonais très russophobe. Une position embarrassante aussi pour Marine Le Pen, qui au-delà d'être alliée à Orban, lui est aujourd'hui redevable. Le prêt de 10,6 millions finançant sa campagne, lui ayant été accordé par la banque hongroise MKB, qui appartient à un très proche du Premier ministre.
Le scénario d'une revanche de 2017, Macron-Le Pen en finale, est-il écrit ? Non, répond Jean-Luc Mélenchon, désormais le troisième homme de la campagne et qui veut croire en ses chances pour le camp Mélenchon. Ce mardi est une journée importante, meeting ce soir à Lille, en chair et en os, et dans 11 autres villes grâce à des hologrammes. C'est la touche Mélenchon. Depuis 2017, l'homme chargé des meetings, Bastien Lachaud, raconte à Laurence Perron.
Tous les Français qui entrent seulement maintenant dans la campagne présidentielle et souhaiterait pouvoir entendre Jean-Luc Mélenchon et son programme lors d'un meeting pourrait participer à un tel événement. Donc nous avons des villes de quartiers populaires, des villes rurales. Donc nous avons vraiment voulu être présents sur l'ensemble du territoire.
Question technique, est-ce que c'est exactement la même technologie qu'en 2017 ?
La technologie a évolué, on a amélioré les choses. Le principe d'un hologramme, c'est la projection d'une image dans ce que l'on appelle une piscine qui est au sol de la scène et qui se reflète sur un film. Ça, c'est une technologie qui a été inventée au 19e siècle, donc cette technologie, c'est toujours la même. Ce qui change, c'est la qualité du film. Donc là, ce n'est plus la même technologie de film. Ce n'est plus la même manière non plus de capter, d'éclairer, etc. Donc on a amélioré les choses pour essayer d'avoir un rendu encore plus impressionnant que la dernière fois.
Un propos recueilli par Laurence Perron. Nous sommes la force politique la plus récente dans l'espace de gauche et pourtant nous sommes les plus nombreux, organisés et cohérents, dit Jean-Luc Mélenchon ce matin au journal Libération. Il reste 5 jours à ses adversaires de gauche pour le faire mentir. Pour Yannick Jadot, à l'agenda du jour, l'éducation. Il participe à la manifestation à Paris des AESH, ceux qui accompagnent les élèves en situation de handicap, qui réclament un véritable statut de fonctionnaire et estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées pendant le quinquennat. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Manifestation près du ministère des Solidarités et de la Santé et le candidat écologiste est à leur côté.
Oui, et c'est le manque de considération, la réorganisation du temps de travail qu'ils sont venus dénoncer, des accompagnants déployés en fonction des besoins, avec des plannings à trous, plusieurs établissements à couvrir. J'ai déjà changé 5 fois d'enfant, d'affectation depuis le début de l'année, explique Fabienne, qui travaille dans le Val d'Oise. Une hérésie, explique la députée écologiste Delphine Bateau. Considérer que les adultes sont interchangeables, que les enfants peuvent être pris en charge par quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu, c'est une catastrophe. Au-delà du fonctionnement, ces plannings morcelés aboutissent aussi à des salaires irréguliers, parfois moins de 800 euros par mois. La solution, explique Yannick Jadot, c'est de créer un corps statutaire de la fonction publique de catégorie B. Au-delà, le candidat écologiste promet de créer 2000 postes de professeurs dans les collèges, lycées et écoles en urgence pour les professeurs. 65 000 recrutements à terme sur le prochain quinquennat. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap, eux, ne prennent pas ouvertement parti pour un candidat, mais ils le disent, il faut que l'ensemble des politiques se saisissent du sujet.
Antoine Gignot avec Hélène Langlois pour France Inter. 5 jours avant le premier tour, les dernières grandes émissions médiatiques à la télévision ce soir sur France 2. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Philippe Poutou, Éric Zemmour et Valérie Pécresse participent à l'émission Élysée 2022. Invité, Emmanuel Macron a décliné l'invitation. La candidate de droite, Valérie Pécresse, y voit un symptôme.
Il y a quelques jours du scrutin, alors qu'enfin les Français s'intéressent à cette campagne, ne pas venir se faire interroger par les journalistes du service public, ça me paraît une dérobade absolument inacceptable. Alors moi je demande au président de la République un sursaut démocratique. Nous voulons enfin débattre de son bilan calamiteux, nous voulons enfin débattre de son projet et je crois que les Français ont droit à ce débat et que la chaîne de service public doit exiger ce débat.
Un propos recueilli par Anne Souhaitement, Éric Zemmour participera à cette émission ce soir. Il a répondu après d'autres aux 100 questions sur la jeunesse que lui a posé la rédaction de franceinter.fr. À retenir de ses réponses sur notre site internet, il est pour l'envoi de professeurs expérimentés dans les établissements d'éducation prioritaire, contre l'apprentissage des langues régionales à l'école, pour le redoublement. Il prévoit de changer le calendrier des épreuves du bac, d'instaurer des cours de programmation informatique au lycée, des séances de prévention sur les violences conjugales et de créer des passerelles entre filières généralistes et professionnelles. Éric Zemmour, opposé au service civique obligatoire, il est également contre le droit de vote à 16 ans. C'est à lire sur franceinter.fr, qui est une autre façon de suivre cette campagne électorale. De la jeunesse aux personnes âgées, après quelques hésitations, le gouvernement a rendu public aujourd'hui le rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur les maisons de retraite Orpea. Il y a plus de deux mois paraissait le livre Les Fossoyeurs, qui accusait le numéro un mondial du secteur de chercher le rendement à tout prix, sur fond en partie public et au détriment des résidents. Certains exemples cités dans le livre relevaient de la maltraitance. Bonjour Anne Orenstein.
Bonjour Bruno.
Le rapport de l'IGAS est lui aussi sévère.
Oui, Orpea donne la priorité à la performance financière. Ce sont les mots mêmes de l'IGAS qui cite par exemple ses primes jusqu'à 6 000 euros accordés aux directeurs qui se rapprochent le plus de leurs objectifs budgétaires. Cela se ressent sur la gestion des ressources humaines. Elles sont plus dégradées que la moyenne des EHPAD, car le but premier, c'est de maîtriser la masse salariale. Résultat, l'IGAS relève ce recours habituel au glissement de tâches des auxiliaires de vie faisant fonction d'aide-soignante. Évidemment, le salaire est moins élevé. L'IGAS pointe également un système qui organise la mise en réserve d'une partie des dotations de l'État ou des départements. Ce sont ces sommes, difficiles à évaluer, que le gouvernement veut se faire rembourser. Difficile à évaluer pourquoi ? Eh bien parce que les documents fournis par Orpea sont insincères, dit l'IGAS, et que la mission a été ralentie par le manque de coopération de la direction du groupe.
Voilà pour Orpea, le rapport est aussi sévère pour les pouvoirs publics.
Et oui, parce qu'Orpea profite de l'assouplissement du cadre réglementaire créé par la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement. C'était en 2015, loi portée par Marisol Touraine. Depuis, les autorités ne peuvent pas reprendre les sommes versées aux EHPAD lucratifs, mais elles doivent être réaffectées pour les soins, ce qui n'a pas été fait depuis plusieurs années, mais personne ne s'en est rendu compte. Et ça, c'est le deuxième reproche qui est fait aux autorités, le manque de moyens des ARS sur qui reposent pourtant les contrôles.
Et le volet judiciaire de cette affaire avance lui aussi. Les plaintes de quelques 80 familles de résidents ont été déposées hier devant le parquet de Nanterre, plainte contre Orpea, notamment pour mise en danger d'autrui et homicide involontaire. C'est la bonne nouvelle du jour, la qualité de l'air s'est améliorée en Île-de-France l'année dernière. Les concentrations en dioxyde d'azote et particules sont en recul comparées à 2019. 2020, année du confinement, est à part. Comment expliquer ce résultat ? Élément de réponse avec Pierre Pernaud, il est ingénieur chez Air Paris.
La diminution de la pollution depuis maintenant plus de 10 ans, elle est expliquée par différentes actions qui sont notamment réglementaires, mais qui peuvent être aussi des initiatives locales, des collectivités ou alors d'acteurs économiques avec notamment des véhicules qui circulent, qui sont moins polluants, des efforts aussi sur le chauffage et puis aussi une sensibilisation et des changements de comportement sur ce sujet qui sont de plus en plus importants de la part de la population. La contribution du trafic routier diminue, mais on ne peut pas s'en satisfaire puisque c'est au bord des axes routiers qu'on a les niveaux de pollution les plus importants. Ils peuvent être jusqu'à deux fois supérieurs aux valeurs limites et on a même jusqu'à 60 000 franciliens qui dépassent encore ces valeurs limites réglementaires fixées par l'Europe et la France. Et concernant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui sont plus basses, mais qui ne sont pas contraignantes, elles sont dépassées pour les 12 millions de franciliens.
Propos recueillis par Hélène Chevalier. Un fabricant de chocolat mis en cause à 15 jours de Pâques, c'est le géant Kinder. Certains de ses produits ont-ils contaminé une quinzaine d'enfants en France ? Tous ces enfants avaient consommé des produits Kinder les jours précédant les symptômes de salmonellose. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Les produits incriminés, dont le fameux Kinder Surprise, ont été retirés ce matin en urgence des rayons de supermarché.
Oui, le Kinder Surprise, les Kinder Mini Eggs ou les Chocobons, des grands classiques, surtout à quelques jours de Pâques, pour Stéphanie et ses deux garçons de 2 et 6 ans qui sortent d'un supermarché à Issy-les-Moulineaux.
Le plus grand, des fois on lui en achète ou on lui en offre pour Pâques. Et je pense qu'il y a beaucoup d'œufs Kinder dans les foyers en ce moment. Tous les enfants en mangent quand même, ça arrive.
Alors Ferrero retire les produits suspectés d'avoir déclenché 15 cas de salmonellose en France. Des cas recensés aussi au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique, en Allemagne et en Suède. Une mauvaise surprise pour Myriam qui garde 4 petits.
Il y en a une qui est très chocolat, justement très Kinder. Donc on va surveiller, puis on va alerter les parents. On est complètement hallucinés quand justement on s'imagine que ça vient d'une grande industrie du chocolat, Kinder.
Aucune enseigne de grande distribution ne s'exprime ce matin sur ce retrait. Hors micro, un gérant de supermarché nous montre le stock retiré hier soir en urgence. Un caddie plein de Kinder Surprise, du jamais vu en 30 ans pour lui, mais c'est rassurant pour Marie-Claire.
De toute façon, il est clair, quand il y a doute, il vaut mieux retirer tout ça. Mais c'est vrai que les chocolats, c'est quand même surprenant. J'imagine pas les sucreries pouvoir faire du mal, en fait.
Ferrero dit avoir testé les chocolats qui sortent actuellement de l'usine incriminée en Belgique. Aucune trace de salmonelle. Si vous avez acheté ces produits rappelés et dont la date de péremption court jusqu'en août, il faut les prendre en photo avant de les jeter et contacter Ferrero par mail ou téléphone pour se faire rembourser.
En bref, 9 lignes à haute tension incendiées cette nuit dans la région de Grenoble. Parmi les sites touchés, celui du fabricant de semi-conducteurs ST Microelectronics à Crolle. Le site avait déjà été visé par un incendie il y a 2 jours et des symboles anarchistes avaient été retrouvés sur place. Le concurrent de la SNCF sur la ligne Paris-Lyon s'affirme un peu plus. Trenitalia passe de 2 à 3 allers-retours par jour à partir d'aujourd'hui. Et une information, nos confrères du Parisien aujourd'hui en France intriguaient ce matin. SNCF Réseau, qui s'occupe des infrastructures, accorde des réductions importantes à Trenitalia sur les péages. Alors la SNCF favoriserait-elle son propre concurrent ? Delphine Simon, c'est une procédure normale en fait.
Oui, pour aider les concurrents de la SNCF, la loi prévoit des incitations au démarrage. Question d'équité, ça va jouer sur les droits de péage, les droits de circuler sur les rails. La première année, Trenitalia paiera donc environ un tiers de moins que la SNCF, selon la publication Mobilettre. Un coup de pouce très encadré, rappelle Arnaud Aimé, spécialiste transport chez SIA Partners.
C'est une ristourne, entre guillemets, donc elles sont très transitoires. C'est juste pour mettre le pied à l'étrier à un nouvel entrant. Le péage, le droit de circuler sur l'infrastructure, ça représente jusqu'à 40% du prix d'un billet. Et c'est ce qui s'est déjà fait dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie. Quand il y avait un secteur historiquement en monopole qui s'est ouvert à la concurrence, cela dit, si le nouvel entrant il fait pas sa place sur le marché au bout de quelques années, ben de toute façon, il perd ce coup de pouce.
Un coup de pouce qui doit permettre à Trenitalia d'amortir un peu les frais très lourds de départ. L'idée, c'est aussi le pari du PDG de la SNCF, étant d'augmenter le nombre de clients à bord des trains, de les faire basculer de la route vers le rail, plus écologique, mais aussi plus rentable à terme pour l'opérateur historique.
Sans club français, les quarts de finale de la Ligue des champions de football commencent à 21h ce soir. Benfica, Liverpool et Manchester City, Atlético Madrid. L'année Molière continue à la Comédie française, au Théâtre du Vieux Colombier à Paris. À partir d'aujourd'hui, une version détonnante des Précieuses Ridicules. Mise en scène Stéphane Varupen, Sébastien Poudrou. La comédie devient un happening punk rock, Stéphane Capron.
Comme toutes les jeunes filles de leur époque, les Précieuses Ridicules rêvent de devenir célèbres. Ici, leur salon devient un lieu créatif. On revisite la musique de Lully dans une version pop. La toute nouvelle pensionnaire Sephora Pondy s'échine tous les soirs à faire entendre la langue de Molière.
C'était un peu notre crainte de réussir à la fois à jouer sur cette vitesse qui était propre en fait à la situation telle qu'elle est écrite dans la pièce et en même temps de réussir quand même à le faire entendre. C'est un peu notre cheval de bataille. Donc moi j'y suis un peu tous les soirs à essayer à la fois de m'amuser de cette énergie folle et en même temps ça reste toujours très audible pour les gens qui écoutent.
Claire de la rue Ducamp qui interprète la Précieuse Katos s'amuse des libertés prises avec le texte de Molière.
Chaque soir il y a une part d'improvisation assez importante qui permet à la fois d'être très libre et étonnant, même pour nous. Sur chaque soir, c'est assez étonnant ce qui se passe, surtout de la part de Jérémy Lopez qui joue Mascarille. Voilà, je crois qu'on est dans la ligne directe de ce que faisait Molière.
C'est vrai que lorsque Jérémy Lopez prend le micro avec cette voix déformée, il est à mourir de rire. Il improvise son monologue tous les soirs. Mais tout est une question de dosage quand il s'agit de dépoussiérer des classiques. Et ici, la pièce a tendance à trop s'étirer.
Ça, je ne suis pas sûr.
Oui, sont bien les Précieuses Ridicules au Théâtre du Vieux Colombier à Paris et c'est jusqu'au 8 mai. La météo dans un instant.
Dans la vie, il y a l'original et les copies.
Même pour les médicaments ?
Bien sûr. Aujourd'hui, avec les Organon Originals, vous avez droit à 22 médicaments de marque originale qui ne vous coûtent pas un centime de plus.
Mon médicament original ? Vraiment ? Pas un centime de plus.
Rendez-vous sur organonoriginals.fr ou chez votre médecin.
Médicaments Organon Originals, l'idéal.
Le droit d'aller à l'école, ça vous paraît normal ? Et le droit d'avoir un travail alors ? Chez Actual, acteur majeur du travail en France, nous travaillons tous les jours pour vous garantir ce droit. Travail intérimaire, recrutement, accompagnement vers l'emploi, formation. Avec Actual, construisons ensemble votre travail.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonjour Elodie Kalak.
Bonjour à tous.
Un nuage au nord, soleil au sud et température en hausse aujourd'hui.
Oui, du sud de l'Aquitaine vers la Méditerranée et les Alpes, c'est bien du soleil. Plus au nord, c'est un ciel souvent bien encombré avec encore un petit peu de pluie des Charentes vers le Grand Est et le Jura. Ça s'éclaircit quand même un petit peu près de la Manche où le vent atteint encore 60 km à l'heure. Les températures, elles se rapprochent doucement des moyennes de saison. Comptez 10 degrés à Strasbourg et à Dijon cet après-midi, 12 à Cherbourg, à Clermont-Ferrand, 14 à Lille et Toulouse, 15 degrés à Paris, Rennes, Agen, Grenoble ou Nice et 18 du côté de Nîmes. Et puis demain, bonne nouvelle, il fera plus doux le matin, enfin 4 à 10 degrés. De 0 à 1 tout de même vers le Massif central et les Pyrénées.
Elodie Kalak, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
C'est une autre crise qui passe largement sous les radars et pourtant elle est aiguë. La grippe aviaire, cet hiver, est la plus sévère qui ait touché la France. Plus de 10 millions de volailles abattues depuis novembre, plus de 1000 foyers, près de la moitié pour le seul département de la Vendée. Les Pays de la Loire sont la deuxième région d'élevage après la Bretagne, où des cas sont également déclarés. Alors vous êtes éleveur et touché par cette épizootie. Vous voulez comprendre les enjeux de cette crise qui repose la question des conditions d'élevage et pourrait saigner, selon la FNSEA, le syndicat agricole, près des tiers des volailles, près de tiers de la production de volailles française. Appelez-nous au 01 45 24 7000 ou intervenez sur l'appli France Inter, rubrique Réagir. Nos deux invités jusqu'à 13h45 sont l'épidémiologiste Barbara Dufour. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'école vétérinaire d'Alfort. Et Jean-Michel Schaeffer, président de l'interprofession de volailles de chair. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et tout de suite un premier témoignage, celui de Sarah. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Vous êtes éleveuse en Vendée. Comment cela se passe pour vous ?
Eh ben, du coup, pour moi, comment ça se passe ? Concrètement, j'ai pas eu la maladie encore sur ma ferme, qui est une toute petite ferme en élevage circuit court. Par contre, psychologiquement, je dois dire qu'on est au plus bas, moi ainsi que j'imagine l'ensemble de la profession, parce que on vit une crise qu'on n'a jamais connue jusqu'à maintenant. On voit des choses se faire dans les fermes qui sont catastrophiques. On voit des éleveurs qui parfois pensent qu'ils ne vont pas se relever. On a des quantités d'animaux qui sont abattus, qui sont maltraités en plus pour être abattus, hein. C'est-à-dire qu'on demande aux éleveurs d'étouffer leurs volailles par tous les procédés possibles parce qu'il n'y a pas suffisamment de matériel nécessaire pour les tuer correctement. On leur demande ensuite de dégager les cadavres eux-mêmes, puisque là non plus, on le sait, il n'y a plus d'écarissage. Donc il n'y a pas eu de protocole prévu en amont pour traiter ce genre de crise. Hein. C'est un peu ça qu'on peut regarder aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que moi je fais partie d'un collectif Sauve qui poule, dans lequel justement on essaye un petit peu de dénoncer le protocole qui a été mis en place, qui vise à tout détruire. Parce qu'il y a justement des élevages où la maladie a peut-être résisté et on n'a même pas essayé de regarder. Les volailles ont résisté à la maladie, pour pas me tromper. Ouais. Et également, y a des élevages qui n'ont pas été touchés du tout. Et ceux-là aussi, on les exclut en fait de l'observation qui peut être faite. Aujourd'hui, le protocole à suivre, c'est la destruction massive de toutes les volailles pour protéger en fait des zones et des élevages pour ensuite relancer la machine. Donc c'était le mot d'ordre qu'on a vu lors de la réunion à laquelle j'ai assisté la semaine dernière. Relancer la machine, mais il faut se poser la question, pour moi et comme pour beaucoup d'autres éleveurs, il faut absolument que politiquement on se pose la question, est-ce qu'on relance cette machine ?
Bien noté Sarah, j'ai noté toutes vos remarques, on va les égrener au fil de l'émission. Merci beaucoup pour votre témoignage. D'abord Jean-Michel Schaeffer, pour poser le décor, si j'ose dire, quel est le tableau aujourd'hui où circule le virus ?
Écoutez, on vit une situation, vous l'avez dit vous-même, qui est vraiment dramatique et c'est effectivement la pire crise sanitaire de notre histoire pour nos volailles.
Les régions touchées, Pays de la Loire, Bretagne, Sud-Ouest.
Alors on a eu le Sud-Ouest qui a subi un épisode sur décembre-janvier principalement.
Oui.
Et on va dire sur la phase descendante des migrateurs.
Oui.
Et là, on est sur la phase ascendante, et c'est vrai que c'est historique et que c'est la première fois que ça arrive. Hein. Et là, sur la phase retour, en fait, hein, on a vraiment le département de la Vendée très impacté, et les départements environnants, donc une partie des Deux-Sèvres, du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique. Hein.
Ouais. Donc Deux-Sèvres, un peu de Poitou-Charentes aussi. Et le Nord, oui. Dites-vous, Barbara Dufour ?
Oui, il y a eu quelques foyers au moment des migrations descendantes dans le département du Nord aussi. Et puis malheureusement, là, on a observé quelques oiseaux morts également en Bretagne, ce qui nous inquiète beaucoup aussi parce que il y a une grosse partie de la production, 40% de la production avicole française est produite en Bretagne.
Alors vous avez tous les deux parlé de migration ascendante et descendante. La question clé, c'est pourquoi la virulence de cette épizootie ? L'origine, c'est les oiseaux migrateurs.
Oui, clairement, c'est les oiseaux migrateurs qui font circuler des souches. Alors habituellement, c'est effectivement les migrations descendantes, c'est-à-dire que les oiseaux, après s'être accouplés dans le nord, oui. Les jeunes oiseaux, avec leurs parents, descendent dans le sud. Les jeunes oiseaux, alors, ils se sont rassemblés pour la reproduction. Il y a eu des circulations d'agents pathogènes au moment de ces rassemblements. Et puis quand ils descendent, les jeunes oiseaux sont pas du tout immunisés. C'est leur première année de vie. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on voit ces oiseaux qui meurent. Hein. On en retrouve des oiseaux de la faune sauvage morts sur le territoire et qui sont infectés par ces différents virus. Je reviendrai sur le fait qu'il y a beaucoup de virus en cours. Hein. C'est pas tous les mêmes. Alors, habituellement, ce sont ceux qui ne sont pas morts ont fait une immunité et normalement, en plus, ils ne se rassemblent pas tellement pendant la période où ils sont dans le sud. Oui. Et quand ils remontent dans le nord, habituellement, ils ont beaucoup, beaucoup moins d'agents pathogènes. Ils font circuler beaucoup moins d'agents pathogènes. Parce que ce sont des populations qui ont déjà une immunité. Et puis, parce qu'il y a beaucoup moins de jeunes, entre guillemets. Oui. Ils ont pris un petit peu d'âge. Ils sont donc plus...
plus solides, on va dire.
Plus solides, oui. Voilà, absolument. Et donc, cette année, ben, il y avait tellement de virus à la descente. On a vu les premiers foyers... sur la faune sauvage au mois de début août, hein, dans le nord de l'Europe. Il y en avait tellement que manifestement, il y en a qui ont conservé, qui ont fait circuler encore ces virus pendant la saison de migration, enfin après les migrations, oui. Quand ils étaient dans le sud. Et certains sont remontés avec des virus qui ont changé, qui ne sont plus les mêmes. Hein.
On a appris la notion de variant, ça marche aussi pour une épizootie.
Ça marche exactement pareil. Voilà. Je pense que le Covid a appris beaucoup de choses aux gens et on peut malheureusement l'appliquer aussi beaucoup à la grippe aviaire.
À la grippe aviaire. Alors Jean-Michel Schaeffer, je voudrais tout de suite qu'on aborde une des remarques de Sarah qui disait, pour le dire très vite, on abat trop massivement. Est-ce que vous partagez ce constat ? Et je poserai la question à Barbara Dufour également.
Bah écoutez, bon, vous avez dépeint la situation sanitaire avec le virus, sa façon de se comporter, et bien évidemment, c'est toujours dramatique. Moralement, c'est horrible. Moi-même, je suis éleveur. Hein, je veux dire, quand ça vous tombe dessus, il peut pas vous arriver pire quand vous êtes éleveur, quoi. Mais on est face à un virus qui circule avec une facilité jamais vue. Et Dieu sait que les éleveurs ont investi dans des nouveaux protocoles sanitaires, se sont équipés. Et là encore, on a trouvé une évolution du virus qui fait que il se met dans les failles, quoi. Et ça provoque cette situation qui est vraiment vraiment catastrophique. Et je le comparerais un peu à un feu de forêt, quoi. Vous voyez, il y a eu des départs de feu qui ont pris comme une forêt asséchée, quoi. Et c'est parti dans un espèce d'immense feu de forêt. Et alors vous arrivez dans une telle situation de sanitaire, quoi, hein, avec une telle présence du virus que malheureusement, il n'y a plus que la solution, c'est que d'éteindre massivement le feu, quoi.
Barbara,
si je peux me permettre cette image,
non, mais elle est claire. Barbara Dufour, ça pose aussi la question de la densité des élevages et de leur proximité.
Oui, ça pose clairement cette question-là. Je crois que l'image du feu de forêt est une très bonne image. Et dans les feux de forêt, on a ce qu'on appelle des pare-feux autour pour que le feu n'ait plus rien pour continuer sa progression. C'est exactement la même chose. Moi, je comprends à la fois le désarroi des éleveurs qui voient des élevages dans lesquels les animaux ne sont pas malades être abattus, mais on est obligé de faire ces pare-feux parce qu'on n'a rien d'autre pour lutter contre l'épizootie aussi actuellement. Alors effectivement, quand il y a une très grosse densité d'élevage, ça se propage très vite. Et il est clair que
la question que posait l'éleveuse tout à l'heure, à savoir de, est-ce qu'il faut recommencer de la même manière, bah, c'est des vraies questions. Est-ce qu'il faut être, avoir autant d'élevages et autant d'animaux dans ces élevages, dans ces zones-là, que ce soit la Vendée, que ce soit également la Bretagne, ou que ce soit le Sud-Ouest, hein, qui a quand même eu une grosse épisode aussi cette année aussi, pour la quatrième année de suite, hein. Est-ce qu'il faut autant d'animaux, autant d'élevages dans ces zones-là? C'est une vraie question, cette densité.
Jean-Michel Schaeffer, je vous pose cette question parce qu'au fond, ça pose la question de la tension entre les revenus des éleveurs et les conditions d'élevage. Est-ce que, au fond, le caractère industriel de l'élevage aggrave la grippe aviaire, pour le dire en un mot?
Bah écoutez, alors, on est dans une région de polyculture élevage, hein. On a des fermes vraiment de taille moyenne. Les élevages, c'est pas des élevages vraiment, c'est pas des élevages industriels en fait. C'est une famille, c'est un éleveur qui travaille soit avec un salarié ou avec son épouse, ses enfants sur une exploitation agricole quoi. Et sur des tailles d'élevage où en fait en France, on fait partie des plus petites tailles moyennes d'élevage. Hein. En France, la taille moyenne, ça va être 30 000 volailles, mais nos collègues européens sont plutôt à 90 000, 100 000 volailles par élevage. On a même des pays hors Europe, pas très loin de chez nous, où la taille moyenne avoisine les 2 millions, quoi. Donc, on est vraiment dans notre domaine sur, voilà, sur des tailles vraiment, vraiment très, 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 très moyennes, quoi. On est sur du familial, quoi.
Emmanuel au standard. Bonjour, Emmanuel.
Oui, bonjour à vous tous. En fait, nous sommes entre Jersey Land, donc on connaît tous des personnes de plus ou moins près qui sont affectées par ces décisions. Alors moi, ce que je me demande toujours, c'est pourquoi les préfectures exigent des abattages dans des élevages non atteints par la grippe aviaire. Et quand bien même il y aurait des animaux malades, la grippe aviaire n'est pas une zoonose. Ce n'est pas transmissible à l'homme. Et ça, on ne l'entend jamais dans les médias. Donc, elle n'est pas transmissible à l'homme. On pourrait très bien les consommer sans aucun risque. Et c'est vrai que ces animaux, bon, effectivement, ils sont élevés pour être abattus, mais pas pour finir dans l'incinérateur ou Dieu sait où, quoi. Je trouve que c'est un vrai gâchis et vraiment une honte, hein, pour nous, êtres humains, d'agir de la sorte envers ces animaux d'élevage.
Barbara, voilà. Dufour, qu'est-ce qu'on peut... Merci Emmanuel, qu'est-ce qu'on peut répondre à Emmanuel?
Alors,
et j'ajoute la question de Jeanne, je fais chaque année des réserves de foie gras et confit de canard, est-ce que c'est dangereux de les consommer cette année, étant donné le contexte?
Non, alors, je crois qu'il faut être très clair là-dessus, je crois que la personne qui est intervenue juste avant l'a dit, cette année, comme les 3-4 années dernières d'ailleurs, les virus qui circulaient n'étaient pas zoonotiques. Pour autant, certains virus de grippe aviaire peuvent l'être. Rappelez-vous...
Zoonotique, transmissible à l'homme.
Zoonotique, c'est-à-dire transmissible à l'homme, excusez-moi. C'est-à-dire que, rappelez-vous du H5N1. Dans les années 2006, c'était une zoonose très grave, une maladie qui se transmettait à l'homme et qui, chez l'homme, était extrêmement grave parce que ça créait des pneumonies, en fait. Il se trouve que les virus, on a la chance que les virus qui circulent actuellement ne le soient pas, mais il n'est pas exclu que dans une autre épisode aussi, j'espère pas l'an prochain, mais dans les années à venir, ça peut revenir, hein, le soit. Donc ça, c'est la première réponse. Pour autant, tous les produits qui ont été issus d'élevage français actuellement sont parfaitement consommables. Il n'y a aucun risque pour le consommateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais revenir sur les abattages. On n'est pas dans un contexte franco-français dans cette affaire. On est dans un contexte international. Il se trouve que pour des raisons notamment de transmission à l'homme de certains de ces virus, qui sont proches du virus de la grippe humaine aussi, hein, rappelons-nous ça. Hein. Pour ces raisons-là, il a été décidé au plan international, au niveau européen, mais pas uniquement au niveau européen, qu'on voulait vivre sans ces virus, qu'on voulait les éradiquer. Donc on ne peut pas, du jour au lendemain, tout seul, nous en France, décider qu'on va laisser circuler ces virus. Et puis, je voudrais rappeler aussi que sur certaines espèces, comme les canards par exemple, la mortalité est quelquefois réduite. Sur d'autres espèces, comme les dindes ou les poules, c'est une catastrophe économique réelle. Donc, pour l'instant, on ne peut pas modifier le fait qu'on va éradiquer ces maladies.
Jean-Michel Schaeffer, le temps court très vite. Une question rapide. Quelles mesures de précaution prenez-vous? C'est la quatrième crise en 5 ans. Quand on parle de biosécurité, de quoi parle-t-on?
Quand on parle de biosécurité, en fait, c'est des bonnes pratiques sanitaires pour se prémunir au mieux d'une attaque, je dirais, d'influenza aviaire, quoi. Donc là, à l'heure actuelle, c'est avoir des bâtiments avec des sas, hein, pour faire le tampon entre l'intérieur et l'extérieur, avoir des bottes dédiées avec des cottes qu'on peut mettre sur soi dédiées pour entrer dans le bâtiment. C'est également mettre à l'abri les animaux pour les protéger. Et puis voilà, c'est différents protocoles en fait sanitaires pour essayer de protéger au mieux nos animaux. Et je tenais aussi à rajouter que malheureusement, ce que nous vivons en France, nos collègues européens également, oui, en fait, sûr. Toutes les zones de migration ont vécu des catastrophes cette année. La plaine du Pô en Italie a subi la même dévastation. En Belgique, Pays-Bas, là, c'est aussi, au Royaume-Uni aussi. Et on voit que cette année, avec la forme qu'a pris le virus, sur tous les passages de migrateurs, il y a eu vraiment voilà, des impacts très forts sur les élevages. Quoi.
Barbara Dufour, 10 secondes, est-ce qu'il faut la bonne mesure de précaution, c'est d'enfermer les volailles ou de les laisser en plein air ?
Il y a deux choses. Il y a l'introduction du virus. Ouais. Pour que le virus ne s'introduise pas dans les exploitations, il faut deux choses. D'une part, évidemment, si les animaux sont en plein air, le risque est plus élevé. Mais on voit bien que dans des élevages fermés, où on a besoin de sortir, de rentrer pour mettre de la paille, pour aller chercher des animaux, les sortir, etc., la moindre faute de biosécurité peut faire rentrer le virus. Puis après, il y a un deuxième niveau qui est la diffusion. Et là, dans la diffusion, il y a des risques pour les élevages plein air qui ne sont pas du tout les mêmes que les risques pour les élevages fermés. Les élevages autarciques plein air ont beaucoup moins de circulation, ouais. Et les autres ont beaucoup de circulation de véhicules, d'animaux, etc., qui véhiculent aussi le virus. Donc, c'est les deux, voilà. Mais s'il y avait moins d'élevages rassemblés, je parle même pas de moins d'animaux, hein, mais moins d'élevages dans les mêmes zones, on pourrait mieux s'en sortir.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Il est 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Dans 10 minutes, la justice internationale en question.
Quelques étapes dans son histoire.
À tout à l'heure. Avant cela, le feuilleton avec un transporteur routier en ces temps de carburant cher. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le chanteur Jean-Guy Denis est à votre micro aujourd'hui. Son 16e album studio intitulé « Avec des si » vient de sortir. Et il sera bientôt en concert au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris.
Ce sera le 25 avril. Et il est impatient, Jean-Guy Denis. Depuis le début de sa carrière, milieu des années 70, la scène a toujours été le lieu qu'il préfère.
C'est en tout cas pour ça que j'ai voulu faire ce métier et que je continue à faire ce métier, outre les albums, outre les chansons, mais c'est vraiment être sur scène, parce que sur scène, je me sens très très libre. Et c'est merveilleux, mais en même temps, il y a quand même une notion qui est très importante, c'est quand même l'âge aussi. Et puis la scène idéalise, on s'idéalise sur une scène. Alors donc après, il y a un moment où l'idéalisation est beaucoup plus difficile à réussir à mon âge que quand j'avais 30 ans. C'est la vie, c'est normal, il n'y a pas de problème à ça, c'est pour tout le monde pareil. Mais je voudrais pas être un vieux chanteur qu'on soit obligé de sortir au lance-flamme. J'ai pas envie qu'on me sorte de scène, je préfère sortir avant.
J'ai peur des rues, des quais du sang, des croix de l'eau, du feu des becs. La printemps fragile et cassant comme les pattes d'un insecte. J'ai peur de vous, de moi, j'ai peur des yeux terribles des enfants. Du ciel, des jours, des fleurs, de l'heure, des mets de vieillir et du vent. J'ai peur de l'aile des oiseaux, des noirs, du silence et des caries. J'ai peur des chiens, j'ai peur des mots et de l'ongle qui les écarie. J'ai peur des notes qui se chantent, j'ai peur des sourires qui se pleurent, des loups qui hurlent dans mon ventre. Quand on parle de lui, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur.
C'est donc « J'ai peur » d'Alain Leprest qu'a choisi Jean-Guy Denis, Frédéric.
Chanson qu'il interprète d'ailleurs lui-même en concert. « Elle me rend serein », m'a-t-elle dit. La musique est de Jean Ferrat. Les paroles sont de Leprest, mort il y a 11 ans, vénéré par ceux qui le chantent.
Je trouve que c'est un poète comme Jacques Prévert, voilà, parce que Alain Leprest a une écriture totalement universelle, comme Prévert. Et c'est une écriture très belle. Par exemple, dans la chanson « J'ai peur », il y a un amoncellement de mots, il y a un amoncellement d'images. Tout est dit dans cette chanson. Elle a en même temps la vulnérabilité et en même temps une très très grande force. Et je trouve que c'est là où il atteint vraiment une vraie 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 poésie.
J'ai peur des souvenirs et des voix tremblant dans les magnétophones. J'ai peur de l'ombre qui convoie des poignées de feu vert et l'automne. J'ai peur des généraux du froid qui foudroient les pies sur le champ. Et de l'orchestre du Nord-Roi sur la barque des pauvres gens. J'ai peur, j'ai peur.
Une chanson qui s'appelle « J'ai peur »,
ouais,
peut finalement se chanter sereinement,
oui,
et apporter la sérénité
tout
également.
Tout à fait, oui, oui, oui. Oui, parce qu'on se débarrasse des peurs, on se débarrasse des choses au fur et à mesure que les mots sortent. Bon, mais je pense que les gens doivent aussi éprouver ce sentiment de s'alléger, quoi.
J'ai peur de pousser la barrière de la maison des églantines, où le souvenir de ma mère berce sans cesse un berceau vide. J'ai peur du silence des feuilles qui prophétisent le terreau, la nuit ouverte comme un œil retourné au fond du cerveau.
Là, je pense beaucoup à ma mère quand je chante cette chanson. J'y pense souvent. Quand je chante, je pense souvent à ma mère. Quand je rentre sur scène, je m'imagine qu'elle est là, déjà encore.
Est-ce que vous continuez de chanter aussi pour elle, un peu ?
Oui, toujours. Quand on perd ses parents, quand on perd un peu les gens très proches, bon, on n'a plus le regard qu'ils avaient sur vous quand on était enfant. Et je pense que c'est ça qui manque un petit peu, c'est que on me regarde plus comme un enfant. Plus personne ne me regarde comme un enfant. Et ça, c'est triste, un peu, très triste même. Mais bon.
Beaucoup disent qu'il n'a pas eu la place qu'il aurait dû avoir.
Exactement,
à la
exactement. Je trouve qu'il a été méconnu. Mais en revanche, les gens qui l'ont aimé sont toujours là et toujours très très présents. Et il y a beaucoup de gens qui le chantent, qui continuent à le faire vivre.
J'ai peur.
Alain Leprest, J'ai peur, c'était donc Frédéric, le choix de Jean-Guy Denis.
En concert au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris le 25 avril, et si vous aimez Guy Denis, vous aimerez son nouvel album, texte et musique magnifique, il a pour titre Avec des si.
À demain.
À demain.
Notre feuilleton jusqu'à vendredi, une semaine au sein de l'entreprise de transport Coton. PME d'un peu moins de 50 salariés près de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Comment ces responsables et salariés composent-ils avec la hausse du coût des carburants ? Dans l'épisode 1 hier, il nous donnait ces chiffres clés, le prix du complet gasoil. L'achat de carburant en gros pour les camions de 36 000 litres est passé de 45 à 86 000 euros. Comment amoindrir le choc ? Dans cet épisode 2, Sarah Guibaudot s'est glissée dans le bureau d'exploitation où on essaye d'optimiser les tournées.
À partir de 8h15, le téléphone commence à sonner. Donc, Mickaël, qui est responsable d'exploitation chez nous.
Ça fait 20 ans que je suis dans le transport. J'ai commencé en tant que chauffeur. Je suis passé responsable d'exploitation il y a quelques années de ça. Et donc maintenant, j'essaie d'emplir au mieux les plannings. En ce moment, on essaie d'optimiser au maximum nos tournées pour faire le moins de kilomètres et le plus de clients pour pouvoir faire rentrer un peu d'argent, quoi. Déjà, on essaie répercuter entre guillemets les hausses de carburant chez les clients. Donc c'est compliqué, hein. Bon, ils comprennent, hein, mais c'est quand même compliqué à appliquer.
Ah oui, bonjour Romain, Transport Coton.
Donc Romain est responsable d'exploitation sur la partie chez nous, sur la partie frais.
Merci, ciao. 130 euros, faut pas abuser. Donc là, non, le tarif est beaucoup trop faible par rapport au voyage, là. Il y a 100 km pour 130 euros, non, c'est clair que ça fait beaucoup trop peu. Alors moi, je suis Romain Pelletier, j'ai 40 ans, mais ça fait 40 ans que je suis dans le transport, je suis issu de ce milieu-là. J'ai fait mes études dans le transport. Mon père avait une société de transport, et la société de transport était juste à côté de chez ma grand-mère. Donc j'y allais, il y avait ma tante qui était au bureau, mon oncle Théo était au bureau, mon père roulait, donc je me suis dirigé là-dedans naturellement.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ?
Alors, en tant que transporteur, on a des bourses de fret. La première chose, c'est que je sélectionne mes régions, mes départements, et je regarde un petit peu ce qui peut potentiellement m'intéresser. On va dire que j'ai les départs de ma région, et par contre, je vais chercher les retours.
Et le but, c'est donc d'optimiser aussi qu'il n'y ait pas un camion qui revienne à vide ?
Tout à fait, pas un camion qui revienne à vide, ou aussi, on n'a pas forcément complet. Nos SMIF font 13 mètres de plancher. Le client va nous dire j'ai que 10 mètres de plancher. Nous, ce qu'on va chercher, c'est à compléter les 3 mètres restants. C'est ces 3 mètres qui vont nous permettre de rentabiliser encore plus le camion. Je vais appeler un transporteur donc qui je travaille régulièrement. Oui, bonjour Romain Coton. Tu mets du Saint-Priest pour Belleville. Oh, ouais, 170, ouais, ça me fait trop léger. Bon. Eh ben tant pis pour moi. Merci quand même. n'était pas d'accord niveau tarif. 3 heures pour 170 euros, ça fait pas très cher payé. Une fois qu'on a payé le chauffeur, le véhicule, mais il reste rien.
Oui, t'as terminé. Ok, ça marche. Et ben, je vais t'envoyer récupérer du marmillon à Arban, s'il te plaît.
C'est un métier difficile parce que c'est un métier où il faut travailler, qui demande de faire beaucoup d'heures. C'est un métier où des gens gagnent bien leur vie parce qu'ils travaillent beaucoup. Beaucoup de chauffeurs ont passé leur permis à l'armée.
Au service militaire, vous voulez dire.
Au service militaire, voilà, tout à fait. Et on a cette problématique de renouveler ces chauffeurs-là. Et la mauvaise image, en plus, combinée à tout ça, ça fait qu'on a un personnel qui est très, très vieillissant. Et on voit
pourquoi vous dites mauvaise image? Vous avez l'impression d'avoir une mauvaise image?
Oui, c'est qu'un camion, c'est pas bankable en ce moment au niveau de la pollution. Faut être clair, quand on part en vacances, on voit les camions, ça embête sur la route, ça avance pas, quoi que ce soit. Donc, voilà. Mais c'est un métier de passionné, faut le comprendre. On vit transport, vraiment. Hein. Même la nuit, on va se réveiller parce que mince, on a un éclair de génie la nuit sur un planning, sur une organisation, quoi que ce soit. Même pour les chauffeurs, ils vivent leur métier complètement. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est eux qui voient le client, c'est les commerciaux de l'entreprise.
Le feuilleton signé cette semaine, Sarah Guibaudot, réalisation Théo Raison.
France Inter, le 13-14.
Et le vif de l'histoire, le président ukrainien Zelensky intervient devant le Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui, après la découverte de dizaines de corps dans les rues de Boutcha, au nord de Kiev. Les accusations de crimes de guerre contre la Russie se multiplient depuis hier. Moscou dément fermement. Jean Lebrun, la question de la justice pénale internationale est à nouveau posée.
Elle avait été posée très nettement, évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale. Le droit avait été menacé de mort. Vive le droit, a-t-on répondu. De la guerre devenue universelle, de l'humanité contre elle-même, ne pouvait-il sortir enfin du commun? C'est une question du philosophe tchèque Patočka. Et ce furent la Déclaration universelle des droits de l'homme en 48, puis en 49, les Conventions universelles de Genève. Alors elles sont au nombre de quatre. La quatrième concerne les crimes commis à l'endroit des civils, ceux contre lesquels on s'élève aujourd'hui en Ukraine. La Russie soviétique, notons-le, avait attendu pour ratifier ces textes. C'est que la guerre froide freinait le développement du droit pénal international. La regrettée Mireille Delmas-Marty, grande spécialiste en la matière, observait avec malice que le droit international du commerce et des marchés avait avancé beaucoup plus vite que le droit pénal international, la globalisation économique, plus facilement que l'universalisme.
Pendant la guerre froide, Jean, il y avait toujours un camp pour empêcher l'autre d'appliquer les conventions de Genève.
Et on en est resté longtemps aux déclarations de principe. Puis, les principes de droit ont commencé à avoir des conséquences plus visibles. D'abord avec les tribunaux pénaux internationaux spécialisés. Le premier, je ne parlerai que de lui, a été formé sous l'égide de l'ONU et il a concerné l'ex-Yougoslavie. Ça n'a pas été une mince affaire d'amener jusqu'à La Haye, siège de cette instance exceptionnelle, les anciens responsables. Il est toujours difficile de restituer les chaînes de commandement, aujourd'hui encore. Alors, quatre types de crimes avaient été distingués pour ce tribunal international. Violation des droits de la guerre, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Le crime contre l'humanité commence quand, avec un esprit de système, on tue quelqu'un parce qu'il est là ou parce qu'il est né. Alors rappelons qu'en Ukraine, c'est pour l'heure de crime de guerre qu'il convient d'abord de parler, même si le président Zelensky a hasardé le mot de génocide. L'ex-président de la République serbe de Bosnie, Karadzic, a été condamné pour les quatre motifs précités. Le génocide, c'était le massacre des musulmans de Srebrenica, coupable d'être né musulman. Et puis enfin, la dernière étape, 98, une cour pénale internationale a pu prendre forme à Rome, être constituée ensuite, elle peut siéger en permanence. Les faits dont elle a eu à traiter ont concerné surtout l'Afrique. Cette semaine s'ouvre le procès d'un chef de milice soudanais. L'enquête préliminaire concernant l'occupation israélienne de la Palestine a, elle, traîné en longueur. Et celle concernant l'Afghanistan a été refusée.
Ce qui fait quelques motifs pour critiquer la justice pénale internationale.
Bah, il en est tant d'autres qui sont mis en avant. Sa lenteur, sa partialité, le tribunal pénal international Yougoslavie a pourtant pris soin de ne pas mettre en cause que des Serbes, mais aussi des Croates, des Bosniaques, des Kosovars. Et puis, l'européisme pour la CPI serait détestable. On ne peut pas parler d'occidentalisme puisque les États-Unis n'ont pas voulu en être. Non plus que la Russie. d'ailleurs. L'Inde et la Chine sont restées totalement en retrait. Mais demandait Mireille Delmas-Marty, pourquoi serait-il impossible de définir avec elles deux un corps commun de valeurs partagées ? Dans l'Antiquité, un même courant de pensée exigeait qu'on pose des bornes aux excès de la guerre. Il se dessinait à la fois en Chine, 6e siècle avant notre ère, Athènes classique, 5e siècle avant notre ère, et un peu plus tard, vers 200 avant notre ère, dans le code de Manu, en Inde. Mais évidemment, on peut préférer la maxime charbonnier et maître chez soi, Goebbels, devant la Société des Nations en 1933.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, quel est le programme aujourd'hui ?
On revient sur le dernier rapport du GIEC publié hier sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.
On écoutera ça très attentivement. À tout de suite.